Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été du matin des musiciens toute cette semaine aux couleurs du jazz sur France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Lundi, nous avons posé quelques fondations entre les années 20 et les années 40. Mardi, nous avons plongé dans le grand bain des créateurs des années 50. Hier, nous étions dans la pluralité tous azimuts. Aujourd'hui, nous reprenons le fil de l'histoire en 1959 pour un temps qui sera propice au questionnement, où le jazz le plus libre côtoiera le plus écrit, où toutes les démarches seront libres de cohabiter, même si à l'époque, il était sans doute difficile de le percevoir de cette manière plurielle. Ainsi, en Europe, un certain Martial Solal défendait déjà l'idée d'un jazz écrit, organisé, composé, même si pour cette suite en ré bémol, il s'agissait d'une sorte de tissage, jour après jour, avec ses partenaires, le trompettiste Roger Guérin, le contrebassiste Paul Revert et le batteur Daniel Humer. Nous sommes en juillet 1959. Thank you. Toute la fantaisie et l'invention de Marcel Solal, compositeur de cette suite en ré bémol pour quartet de jazz. Le pianiste est ici en compagnie du trompettiste Roger Guérin, du contrebassiste Paul Rovert et du batteur Daniel Humer. C'était en juillet 1959. L'année suivante, de l'autre côté de l'Atlantique, puisque nous pratiquons aussi l'aller-retour de chaque côté de l'océan, le guitariste Wes Montgomery revient aux fondamentaux du blues avec ce D Natural Blues qu'il partage avec le pianiste Tommy Flanagan, le contrebassiste Percy Heath et le batteur Albert Heath. Nous l'avions d'ailleurs évoqué dans un matin des musiciens en compagnie de Pierre-Jean Gaucher. Souvenez-vous, c'était à propos de la place du blues dans le jazz. C'est ici en janvier 1960. Natural Blues, le guitariste Wes Montgomery avec le pianiste Tommy Flanagan, le contrebassiste Percy Heath et le batteur Albert Heath. C'était en janvier 1960. On pourrait donc penser à l'écoute des deux derniers enregistrements que je viens de vous proposer, que le jazz que l'on joue en Europe se tourne davantage du côté de l'écriture, alors que le jazz joué aux États-Unis joue la carte des racines. Du blues notamment, ce serait aller un petit peu vite. D'une part, au sein de la suite de Marcel Solal, il y avait aussi un blues, et puis d'autre part, à la même époque, nous l'avions souligné au cours d'une émission avec Guillaume de Chassis sur le trio de Paul Blais avec Jimmy Giuffre et Steve Swallow, les musiciens américains s'intéressent eux aussi à l'avant-garde et ils proposent leurs propres solutions. Thank you. Jesus Maria, une composition de Carl Abley, enregistrée en mars 1961 à New York par le formidable trio du clarinettiste Jimmy Giuffre, avec au piano Paul Blay et le contrebassiste Steve Swallow, un enregistrement fondateur pour tout un courant que l'on peut désigner sous l'appellation de jazz de chambre ou de jazz de chambre contemporain, et qui sera d'ailleurs l'une des motivations du jeune producteur allemand Manfred Eicher lorsqu'il créera le label ECM à la toute fin des années 60. Manfred Eicher qui va d'ailleurs rééditer un peu plus tard ses disques du trio de Jimmy Giuffre avec Paul Blay et Steve Swallow sur son propre label, ECM. On voit à quel point cette démarche a pu marquer toute une génération d'amateurs et aussi de musiciens. Dans la même génération, le pianiste Mal Waldron, qui a beaucoup vécu en Europe par la suite, lui aussi, proposait un répertoire original qu'il soumettait au talent conjugué du clarinettiste Eric Dolphy et du ténor Booker Ervin, sans oublier bien sûr la présence de Ron Carter, ici non pas à la contrebasse, mais pour l'occasion au violoncelle. Nous en avions d'ailleurs parlé dans le matin des musiciens en compagnie du pianiste Benoît Delbecq. Thank you. Warm Canto, une composition du pianiste Mal Waldron, ici en compagnie du clarinettiste Eric Dolphy, du ténor Booker Irvine, de Ron Carter au violoncelle, Joe Benjamin à la basse et Charles Persip à la batterie. C'était en juin 1961. Quelques jours plus tard, avec le même batteur, Charles Persip, et la compagnie du pianiste Hank Jones et du contrebassiste Wendell Marshall, le polyinstrumentiste Roland Kirk fait montre de tout son savoir-faire en exposant le thème de sa composition « Three for the Festival » à trois saxophones joués simultanément dans la bouche. Frédéric Couder était d'ailleurs venu ici en studio à Radio France nous faire la démonstration de cette petite prouesse qui associe trois instruments différents, mais simultanément, un saxophone ténor, un stretch et un saxello. Et puis ensuite, nous entendrons le même Roland Kirk improvisé à la flûte. Three for the Festival, Roland Kirk, simultanément au saxophone ténor, au stretch et au saxello, et puis ensuite à la flûte avec ce jeu si particulier où il chante dans l'instrument en même temps qu'il en joue. Il était en compagnie du pianiste Hank Jones, du contrebassiste Wendell Marshall et du batteur Charles Persip. C'était en 1961. Et la même année, le saxophoniste soprano Steve Lacy rend hommage au répertoire de Thelonious Monk, en compagnie notamment du trompettiste Don Cherry. Nous en avions d'ailleurs parlé avec Jean-Charles Richard dans un matin des musiciens où nous avions souligné le caractère très pionnier de Steve Lacy, qui avait été l'un des premiers, sinon le premier, à reconnaître la qualité du compositeur Thelonious Monk et à en faire un album entier avec son répertoire. C'était en novembre 1961 toujours. Thank you. Evidence, une composition du pianiste Thelonious Monk, fondée sur les harmonies du standard Just You, Just Me, est reprise ici par le saxophoniste soprano Steve Lacy, avec Don Cherry, trompette, Carl Brown, contrebasse, Billy Higgins, batterie. C'était une démarche assez moderne en novembre 1961 que de consacrer son répertoire à la musique de Thelonious Monk. On en oublierait presque que les années 60 aux États-Unis continuent à voir prospérer les grandes formations, souvent davantage en studio et un petit peu moins sur la route que par le passé. Il n'empêche, celle de Quincy Jones, par exemple, permet à l'altiste Phil Woods de s'exprimer magnifiquement en soliste dans un écrin sur mesure. Nous avions d'ailleurs diffusé ce titre lors d'une émission consacrée à Phil Woods en compagnie du saxophoniste Pierrick Pedron. Thank you. The Quintessence, le grand orchestre de Quincy Jones en 1961, avec en soliste ici au tout premier plan le saxophoniste alto Phil Woods. Ces années voient aussi l'émergence d'une nouvelle génération de musiciens, certains tout à fait surdoués, à l'instar du jeune pianiste Herbie Hancock qui va bientôt occuper le devant de la scène en participant à la grande aventure du quintet du trompettiste Miles Davis. Mais pour l'œuvre, Herbie Hancock se révèle tout d'abord comme un formidable compositeur, pourvoyeur de thèmes qu'il confie aux intervenants réguliers de l'écurie du label Blue Note. Il y a ici le ténor Dexter Gordon, le trompettiste Freddie Hubbard, le contrebassiste Butch Warren et à la batterie Billy Higgins. C'était en mai 1962. Thank you. Drifting, une composition du tout jeune Herbie Hancock, mise en valeur ici par le trompettiste Freddie Hubbard et le saxophoniste ténor Dexter Gordon. C'était en mai 1962. Il y avait aussi Butch Warren à la basse, Billy Higgins à la batterie. C'était le début d'une longue et très abondante discographie pour le pianiste Herbie Hancock, dont nous avions retracé quelques étapes dans le Matin des musiciens en compagnie du pianiste Pierre de Bettmann. Le début des années 60 sont aussi le théâtre de quelques rencontres plutôt inattendues, comme celle du chanteur Johnny Hartman avec le saxophoniste John Coltrane, alors en pleine recherche d'ouverture de son langage. Et pourtant, Coltrane se fait ici le partenaire tout à fait parfait, idéal, de ce chanteur à la voix très grave, particulièrement timbrée, sur cette composition de Billy Strayhorn, alter ego de Duke Ellington, Lush Life, qui multiplie les choses trappes sur le plan harmonique et mélodique.
I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant K traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. And only last year, everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris, please, the bite of it, all I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are alone. Thank you.
stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too.
Lush Life, la rencontre sommaire en 1963 entre le chanteur Johnny Hartman et le saxophoniste John Coltrane, avec à leur côté McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. Autre rencontre historique en cette même année 1963, celle qui fait se croiser deux générations de saxophonistes ténors. Il y a Coleman Hawkins, l'aîné, et puis Sonny Rollins, le cadet. Et avec notre invité Géraldine Laurent, dans un matin consacré à Sonny Rollins, nous avions vu combien les deux musiciens rivalisaient d'invention et de respect mutuel, Coleman Hawkins se révélant souvent aussi moderne que son jeune admirateur Sonny Rollins. À leur côté, au piano, il y a Paul Blay, le contrebassiste Bob Cronshaw et le batteur Roy McCurdy. Le standard est signé Jerome Kern, Yesterdays.
Mm-hmm.
Yesterday's, la rencontre entre deux ténors, Coleman Hawkins et Sonny Rollins, avec le pianiste Paul Bley, le contrebassiste Bob Crenshaw, le batteur Roy McCurdy. C'était en juillet 1963, une année où s'épanouit le talent d'un autre saxophoniste, toujours d'ailleurs aussi actif aujourd'hui, Wayne Shorter. Voici tout d'abord Wayne Shorter sous son nom, signataire d'une composition originale, Juju, à la tête d'un quartet où il fraye avec les musiciens que l'on connaît à cette époque-là, avec Coltrane, le pianiste McCoy Tyner, le bassiste Reggie Workman et le batteur Elvin Jones. C'était en 1964. Thank you. Juju, une composition du saxophoniste Wayne Shorter, enregistrée le 3 août 1964 par le groupe de Wayne Shorter que l'on avait tout d'abord connu comme directeur musical des Jazz Messengers du batteur Art Blakey, avant d'intégrer l'année précédente, en 1963, le quintet du trompettiste Miles Davis. Et ici, Wayne Shorter signait cet enregistrement en compagnie du pianiste McCoy Tyner, du bassiste Reggie Workman et du batteur Elvin Jones, une équipe beaucoup plus proche de John Coltrane que de Miles Davis. Et pourtant, en ce milieu des années 60, Wayne Shorter joue un rôle crucial dans les conceptions développées par le trompettiste Miles Davis. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans cette émission, notamment en compagnie de Franck Bergerot, qui s'est beaucoup penché sur le fonctionnement du quintet de Miles Davis et sur les rôles des uns et des autres, qu'il s'agisse de la rythmique dynamitée par la batterie de Tony Williams, des relances perpétuelles du piano de Herbie Hancock, de l'univers poétique du compositeur dans l'âme qu'a toujours été et qui est toujours aujourd'hui Wayne Shorter, ou encore de l'élasticité des propositions du contrebassiste Ron Carter. C'est d'ailleurs avec Ron Carter que Miles Davis, grand metteur en scène et scénariste du groupe Devant l'Éternel, que signe cette composition intitulée 81. Elle est enregistrée en janvier 1965. Nous sommes au cœur de la galaxie créatrice d'une des plus belles périodes de la carrière du trompettiste. Thank you. C'était en janvier 1965 pour le magnifique album ESP, l'un des joyaux de la discographie pourtant très abondante de Miles Davis pour le catalogue Columbia. Le quintet du trompettiste était au sommet de son art avec ici le saxophoniste ténor Wayne Shorter, le batteur Tony Williams, le pianiste Herbie Hancock, le contrebassiste Ron Carter. Ron Carter qui co-signait cette composition 81 avec le trompettiste. On voit bien ici la période charnière qui est en train de vivre ce quintet entre le phrasé ternaire du jazz, le découpage binaire qui pointe et qui sera bientôt presque dominant. On n'est pas encore dans la tentation électrique, mais ce sera pour demain. Et on sait que la manière de chercher, de jouer dans l'interaction mutuelle que ce quintet a longuement développée pendant quelques années fournit aussi aujourd'hui des pistes de réflexion, des pistes de travail encore un peu inexploitées pour de nombreux musiciens de par le monde. Nous y reviendrons d'ailleurs demain au cours d'une dernière émission qui ne pourra pas retraiter assez un demi-siècle d'histoire du jazz depuis le milieu des années 60, mais où nous poserons quelques questions sur les différentes étapes, sur les avatars de l'histoire de cette musique. Ce sera également le sujet d'une nouvelle émission que j'aurai le plaisir de vous présenter à partir du 6 septembre, le samedi, sous le titre All That Jazz sur France Musique. Ce sera entre 17h et 18h le samedi. Je vous attends nombreux à ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Gilles Blanchard pour la réalisation de cette émission et à la technique ce matin à mes côtés au studio de France Musique. Il y avait Cécile Gissot, Benoît Latil et Bernard Kaczmarek.